Radicaux libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont présents sur la page de l'émission qui s'appelle aussi Radicaux Libres, la page. Et que ça, c'est tout ça, c'est où? Et bien sûr, un site qui s'intitule radioalpa.com. Cette semaine, encore plein de choses agréables et d'autres moins. Un homme est mort à 19 ans. Il est mort lundi 23 février d'être tombé de 15 mètres alors qu'il travaillait sur un silo agricole à René, près de Beaumont-sur-Sarthe. Il est le 23e recensé sur le compte X du accident de Mathieu Lépine, qui depuis 8 ans alerte sur cette hécatombe silencieuse. C'est le nom du bouquin qui est apparu aux éditions du Seuil en 2022. Une hécatombe silencieuse, puisque dans les médias, on n'en parle pas trop. Non, il y a autre chose à faire, forcément, entre le ski. Ouais, en ce moment, il faut que les gens aillent au ski. Et puis ailleurs, mais bon, en tout cas, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils peuvent revenir du travail dans un sac mortuaire. Depuis, le compte recense 4 autres victimes depuis le lundi 23 février. Tous les jours, des gens meurent d'aller au boulot. Ça devrait nous occuper en permanence, mais c'est le salon de l'agriculture. Alors, y a plein de reportages dans les médias pour inciter les Pékins moyens à venir voir de fausses fermes dans un hangar géant. On aurait pu vous parler également d'un homme de 23 ans qui est mort il y a 15 jours. La réalité alternative qu'a voulu imposer l'extrême droite et qu'ont voulu imposer d'ailleurs l'extrême droite, les médias Bolloré et bon nombre de médias dits traditionnels par la reprise sans filtre journalistique des termes et des affirmations du groupe Némésis, cette réalité alternative, elle n'a pas tenu très longtemps. En effet, les faits sont têtus. On vous rappelle qu'ils sont documentés par contreattaque.net, par Le Canard Enchaîné, par l'UMA. À propos de l'humanité, on apprend cette semaine que Némésis et les fachocogneurs sont en cheville, à tel point que les Némésis veulent bien faire l'appât pour taper du gauchiste. À propos de faits, des journalistes ont été surpris par la présence de néo-nazis faisant des saluts nazis à une manifestation organisée par l'extrême droite. Intéressant. D'autres, comme Isabelle Boucher de France Info, ont trouvé que la marche pour Quentin Derenck s'est bien passée. À voir l'interview de Léa Balage-El-Mariki, députée écologiste dimanche 22 février, pour voir comment le journalisme actuel consiste à poser des questions et interrompre les interviewés quand ils répondent. Cette semaine a été également l'occasion de taper à bras raccourcis sur LFI. Ça s'est passé du PS à l'extrême droite. Quelques voix dans les rangs du PC et des écologistes ont sauvé l'honneur de la gauche et LFI n'a rien lâché, motivant encore ses ennemis politiques dans la surenchère. C'est triste. Cette semaine a aussi été l'occasion d'en savoir plus sur les militants d'extrême droite qui se sont engouffrés dans la brèche médiatique. Ils n'étaient pas prêts. La dernière fois, nous avions parlé du colloque de Quentin Derenck, condamné pour violence. Cette fois-ci, c'est l'un de ses meilleurs amis. C'est lui qui l'affirme en tout cas que c'est l'un de ses meilleurs amis. Un certain Vincent Claudin. Il a fait les frais de sa nouvelle notoriété. C'est un admirateur du Troisième Reich qui veut un régime fasciste eugéniste. Ouais, faut faire le tri dans les êtres humains. Le meilleur des mondes, quoi. Il a créé un compte Twitter devenu X dans lequel il déversait sous pseudo sa haine des juifs, notamment. Rattrapé par la patrouille, ce collaborateur, c'est le cas de le dire, d'une députée RN de la Drôme s'est fait virer. On a aussi appris que Aliette Espieux, l'une des organisatrices de la marche pour Quentin à Lyon samedi 21 février, est porte-parole de la marche pour la vie, des cathos intégristes contre l'avortement, en gros, est mariée à l'ancien dirigeant de Lyon Populaire, un groupe nationaliste révolutionnaire qui trouve ses références dans la collaboration avec le nazisme durant l'occupation de la France par les nazis et dans leur détestation des juifs, des homos et des étrangers, bien sûr. Ah oui. Ça fait quand même beaucoup de références au nazisme en deux minutes, là. Hein. Des références sourcées et avérées. Parce que la majorité de la population n'en croise pas, elle peut se rassurer en croyant que les défenseurs du fascisme, du nazisme et des défenseurs de ces valeurs fascistes et nazies n'existent plus en France. Malheureusement, c'est faux. Et dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nazis sont sortis du bois. Oui, il y a toujours eu des nazis. Maintenant, on les appelle néo-nazis. Mais de fait, si on revient dans l'archéologie du nazisme, il y en a toujours eu depuis les années 30, pas mal pendant le début des années 40. Et après, ils se sont un petit peu planqués. Mais après, ils ont continué à donner de la voix à travers des médias divers et variés, à travers des groupes politiques, à travers des groupes terroristes également. Oui, les nazis existent en France. Alors, pour la majorité de la population, c'est rassurant de se dire que non, ces valeurs-là, ça n'existe pas. Malheureusement, certains les défendent. La candidate du RN qui s'était faite photographier avec une casquette à croix gammée de la Luftwaffe, photo qu'elle avait publiée sur ses réseaux sociaux, pour vous montrer à quel point on n'est pas avec les lampadaires les mieux éclairés de la contre-allée, elle est emblématique de cette filiation de l'extrême droite actuelle avec les expériences fascistes et nazies. Et c'est là qu'intervient l'antifascisme. Si les nationalistes révolutionnaires et tous les imbéciles heureux qui sont nés quelque part pouvaient propager par le verbe et le poing leurs valeurs sans rencontrer de résistance, des catégories entières de la population devraient raser les murs en évitant de sortir de chez elles. Et pour tous ceux qui sont bercés par le confort consumériste et du bon côté de la barrière, en l'occurrence, moi je m'en fous, je suis blanc, hétéro, ou alors reconnu comme tel, ouais, je suis bien planqué, mon propos peut ressembler à du fantasme, cette histoire de gens qui ne pourraient plus sortir de chez eux ou ne pourraient pas vaquer tranquillement à certaines occupations. Et pour les personnes racisées, comme on dit, et les homos ou reconnus comme tels, c'est beaucoup plus réel. Samedi 13 décembre 2025, le souvenir vendéen appelé à rendre hommage aux victimes chouannes de la bataille du Mans de 1793. Et dans les 250 personnes rassemblées devant la cathédrale, quelques vieux du souvenir vendéen, des membres du RN bien mis, oui, dans le coin, ils sont plutôt bien mis et souvent à particules. Et puis des nationalistes révolutionnaires. Tout ce beau monde n'a pas pu déambuler dans le vieux Mans comme prévu pour propager ses valeurs. Il a dû se contenter de descendre près de la muraille pour des chants et discours au flambeau avant de remonter près de la cathédrale pour se disperser. Pourquoi ils n'ont pas pu se promener? Eh bien parce que justement, il y avait une manifestation à l'appel de groupes antifascistes locaux. Peut-être que ça sert. Sans transition, on aurait pu vous parler de ce policier qui a été condamné le 13 février 2026 à 8 mois de prison avec sursis pour avoir insulté et frappé un mineur de 17 ans en 2025. Tout aurait pu se passer sans accroc pour le flic d'une trentaine d'années si sa caméra piéton n'avait pas enregistré toute l'interpellation. Le défenseur de l'ordre républicain a interpellé le mineur de 17 ans sans aucune raison et porté plainte contre lui pour violence et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le PV d'interpellation indique que le jeune homme a tenté de s'enfuir à deux reprises, a violemment repoussé le policier et qu'il a résisté à son menottage. Tout ça était totalement bidon, comme le montrent les images de la caméra piéton du flic qui s'est de fait incriminé lui-même. Le flic fait amende honorable au tribunal et présente ses excuses à sa victime. Victime qu'il avait traitée de babouin et de macaque et à qui il avait asséné deux coups de poing, sans aucune raison. Si la vidéo n'avait pas été produite, c'est le jeune homme qui se serait retrouvé devant le tribunal en vertu des allégations portées sur le procès-verbal d'interpellation. Un procès-verbal que les autres flics présents n'ont pas démenti. Même si la peine n'est que de 8 mois de sursis, ce qui est rassurant, c'est qu'en France actuellement, même un flic raciste, c'est-à-dire dépositaire de cette fameuse autorité publique, ne peut pas faire ce qu'il veut. J'insiste bien sur le « actuellement ». Imaginez la même scène avec l'extrême droite au pouvoir. On aurait pu vous parler de tags homophobes bombés sur le local de l'association Homogène dans la nuit du 22 au 23 février. Les fachos ont pris la confiance et retrouvent leur vieille lune. Ils traînent en ville, ils se permettent de... On rappellera que l'homophobie est très présente chez les croyants de toute obédience et plus particulièrement chez les intégristes, les fondamentalistes et les ultra-orthodoxes, histoire de couvrir tout le panel des religions du livre. Elle est aussi très présente chez les virilistes, les masculinistes et autres défenseurs du sexisme, troupe que l'on retrouve plutôt à l'extrême droite. L'extrême droite israélienne, elle est religieuse. L'extrême droite iranienne, elle est religieuse. L'extrême droite française et italienne et hongroise, elle est aussi religieuse. Cette semaine, 11 syndicats et associations réunis dans le collectif Inter-Organisation Sarthe demandent expressément par communiqué à la préfecture et à la commune d'assurer la sécurité des lieux et des usagers du local de l'association Homogène. On espère qu'ils seront entendus. On aurait pu vous parler du revirement de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, qui, emporté par sa fidélité aux députés de son camp, s'était embourbé dans une demande de démission de la rapporteuse spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, à partir d'une question de la députée Caroline Yadan, qui a tendance à voir de l'antisémitisme partout. Caroline Yadan avait réussi à embarquer une soixantaine de députés de la majorité présidentielle, dont Julie Delpech, qui se laisse peut-être embarquer dans des trucs. Bah, déjà, elle est députée de la majorité présidentielle. Elle est députée, elle, de la première circonscription de la Sarthe. Elle les avait embarqués, Caroline Yadan, cette soixantaine de députés, pour signer une lettre adressée à Jean-Noël Barrot, lettre qui demandait que la France agisse pour contraindre Mme Albanese à la démission. Finalement, bah, c'est plus le cas. Et le 23 février, la France n'a pas demandé la fin du mandat de Francesca Albanese à la session du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Maintenant, un petit conseil aux députés et à tous ceux, d'ailleurs, qui travaillent dans les médias également. Hein. Vérifiez vos sources avant de signer n'importe quoi. On aurait pu vous parler de la hausse du prix du gaz, ouais, 4%. Ah bah tiens, énergie fossile toujours, on aurait pu vous parler des températures exceptionnelles pour un mois de février, comme on dit dans les médias, en faisant comme si les rapports du GIEC et de tous ceux qui travaillent sur le dérèglement climatique n'étaient pas passés par là. Eh non, c'est plus exceptionnel, voilà, maintenant c'est comme ça que ça va se passer. Trop chaud, trop froid, trop de pluie, pas assez, mais trop, toujours trop. 29 degrés dans les Pyrénées-Atlantiques quand même cette semaine, et on n'est même pas au printemps. Mais finalement, on a préféré continuer à vous parler encore et toujours des municipales. Moi, je crois que cette histoire, ça ne va pas durer.
Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là,
que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
Ça y est, les listes sont déposées et au Mans, 7 listes se sont déclarées candidates. Il faudra attendre le lundi 2 mars pour savoir si elles sont toutes validées. Pour le RN, les listes prévues à Bonnétable et à la Ferté-Bernard n'ont pas pu aboutir faute de membres. Ah oui, le premier parti de France, les gens ont du mal à s'engager, on dirait. On profite du fait de parler de la Ferté-Bernard pour vous encourager à aller voir le site de la Ferté Citoyenne, le site de la liste participative dont nous avons relaté les étapes de création et production du programme dans les émissions précédentes, où l'on voit que quand on demande à la population ce qu'elle pense de la politique, bah, elle est plutôt d'accord pour en faire, à partir du moment où forcément, on lui donne un pouvoir de décision. La loi nous amène à vous dire que à La Ferté-Bernard, il y a deux listes, La Ferté-Citoyenne et Toujours fier d'être Fertois. La dernière fois, nous nous étions arrêtés après avoir demandé à Samuel Guy. Mais d'ailleurs, c'est qui Samuel Guy ?
Bonjour, je suis Samuel Guy. Je suis chef de file des écologistes pour les élections municipales de 2026.
Samuel Guy, conseiller départemental du canton 1, qui est également sur la liste menée par Marietta Caramanli. Comment fut déterminée la tête de liste et comment furent déterminés les membres de la liste et leur place? Nous voilà donc maintenant sur le programme. Nous avions demandé à Samuel Guy de décrire rapidement trois points. Alors en premier lieu, il a abordé le budget et les finances publiques avec un État qui aide de moins en moins les communes et en demande toujours plus. Il veut même récupérer de l'argent. La liste d'Union pour le Mans met en cause notamment le budget rayonnement de la ville du Mans actuellement, estimé par les élus CES, qui font partie du groupe de la liste dont je vais retrouver le nom. La liste qui s'intitule l'Union pour le Mans, les élus CES qui sont dans l'opposition à la mairie du Mans, se sont associés avec les écologistes, le PCF et le collectif Fraternellement pour créer cette liste, donc l'Union pour le Mans, à laquelle participe donc Samuel Guy. Et dans le programme, il y a cette idée que il y a peut-être un petit problème de finances publiques. Ce petit problème de finances publiques, il serait dû notamment au budget rayonnement de la ville qui est estimé par les élus CES à 14% pour 2025. Ensuite, dans le programme, Samuel Guy nous a parlé du sujet de la sécurité pour rassurer la population, notamment en mettant du bleu dans les rues, mais aussi du rouge avec les médiateurs par exemple. Mais le volet sécurité, comme il le précise, se décline aussi au niveau de la santé. Et là, on voit poindre le sujet désert médical auquel est soumise la Sarthe et donc le l'environnement. La sécurité se décline aussi, selon Samuel Guy, par la circulation dans la ville et la place des divers moyens de locomotion dans l'espace public pour sécuriser aussi le quotidien des piétons et autres adeptes de la mobilité douce. Samuel Guy a enfin parlé dans cette histoire de programme de la relation des habitants aux services publics municipaux pour rendre les démarches plus simples et là encore plus apaisées. On souscrit à cette vision de la sécurité qui ne se limite pas à la lutte contre la délinquance, non ? Délinquance qui serait largement limitée si chacun avait une place dans cette société plutôt que de devoir gagner sa vie. Bon ben voilà, ça c'est dit. Quelle est la place de la parole des habitants, des mancelles et des manceaux dans la création du programme ? Nous avons questionné Samuel Guy sur le sujet. Eh ben devinez quoi ? Il nous a répondu.
Vous avez dit plusieurs fois, on sent bien que les habitants, on sent bien que la population. Comment la population a été associée à la création de ce programme ?
Il y a d'abord le travail militant quotidien de tous les jours, soit en tant que militant politique notamment, en tant qu'élu pour un certain nombre d'entre nous. Et donc ce contact quasiment permanent, je dirais depuis 6 ans pour les gens qui étaient élus à la municipalité. Moi je suis conseiller départemental, j'ai aussi un certain nombre de contacts et d'échanges avec les associations sur le territoire du canton pour lequel je suis élu, et l'action quotidienne aussi des militants associatifs. Donc on n'est pas déconnecté du terrain, de la réalité et de ce qu'attendent les habitants de la ville, mais ce sont des rencontres quasiment permanentes ou quotidiennes. Après, il y a eu un travail plus spécifique pour les élections municipales, mais qui se nourrit de toute façon de ce bilan quotidien, avec plusieurs réunions publiques, il y en a eu 7 ou 8 entre septembre et décembre, avec une réunion, aussi une grande rencontre, qui permettait de faire le point aussi sur tout ce travail et d'avoir des éléments programmatiques plus précis qui pouvaient être aussi justement échangés et affinés, où on avait plus de 150 personnes qui ont été réunies à la maison pour tous Jean Moulin en mi-décembre. Et là aussi, ce travail s'est continué par des petits ateliers, ce qui permettait soit d'affiner certains points, soit de faire émerger des points, ce qu'on appelle les trous dans la raquette, des points sur lesquels on avait pu passer à travers ou simplement négliger un petit peu.
Est-ce que vous avez fait d'autres opérations, comme par exemple du porte-à-porte, du tractage, etc., mais qui permettaient aussi de recueillir des informations ?
Complètement. C'est le travail mené depuis le début d'année de manière plus intense. Même si encore, par exemple, pour mon cas, dans le cadre de mon mandat départemental, on fait des bilans aussi de notre action, et donc c'est l'occasion d'aller échanger, d'organiser des réunions publiques ou de distribuer ce bilan, et ce qu'on fait en fait en porte-à-porte, à la main, pas en passant par des prestataires extérieurs. Mais depuis le lancement de la campagne, depuis le début de l'année, il y a effectivement quasiment quotidiennement des actions porte-à-porte dans les rues, présence aux arrêts de tram, qui est aussi un lieu d'échange, et qui on ne rencontre pas forcément les mêmes publics et les mêmes typologies, de la présence près des écoles, entrée-sortie d'école. Et on cible là aussi d'autres catégories de personnes, des déambulations dans la rue, parce que quand on est visible et identifié, on se fait interpeller sur des problématiques. Donc il y a de multiples formes d'échanges avec la population.
Et est-ce que finalement, ces interpellations, ce travail, va vous amener à peut-être modifier des points du programme ?
Ce serait prétentieux de dire qu'on a un programme au début et qu'on mettra absolument tout en œuvre et qu'on n'en dérogera pas. Je pense que ces interpellations permettent de vérifier que les propositions qu'on a sont en phase avec les attentes ou pas, auquel cas, évidemment, ça nous re-questionne. Alors, il ne s'agit pas de faire des choses qui vont à l'opposé de nos valeurs, mais ça nous permet d'affiner certaines propositions. Et puis j'ai envie de dire que c'est aussi, ce sont des alertes pour ce que l'on aura à faire pendant les 6 voire 7 années du mandat, où on a évidemment plutôt des objectifs, un cadre général, des objectifs, des actions que l'on souhaite mettre en œuvre. Mais dans un mandat, il y a beaucoup de petites choses qui ne sont pas écrites au début. Voilà, c'est de l'ordre de la mise en musique. Pour atteindre l'objectif, il faudra progressivement avancer sur tel ou tel point. Et c'est aussi ce qui nourrit la vie du mandat, cet échange avec la population.
Comment, au cours du mandat, vous voulez faire vivre la vie démocratique, c'est-à-dire donner du pouvoir de décision à la population ?
La question intéressante, parce que j'aurais pu le mettre dans les 3 points que vous m'avez demandé. Notre constat aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déficit de confiance de la population dans ses élus, mais j'ai envie de dire parfois aussi des élus vers la population qui ont du mal à faire confiance aux habitants, à les laisser faire des choses, etc. Et il y a un déficit de démocratie locale dans le sens où notamment l'outil des conseils de quartier et tous les outils de démocratie directe sont aujourd'hui peu utilisés, mal utilisés, plutôt utilisés de manière descendante. Donc un des enjeux de notre programme, c'est d'abord refonder ce système des conseils de quartier, leur donner un rôle beaucoup plus consultatif, élargi, et de faire qu'ils permettent de faire remonter des propositions. Il y a l'enjeu aussi d'avoir des consultations plus souvent sur des projets menés par la collectivité et plus en amont, de travailler beaucoup plus en amont avec soit les habitants du quartier concerné, soit avec les acteurs du domaine concerné, pour que la politique que l'on met en place s'appuie réellement sur les compétences, les savoir-faire, l'expertise citoyenne et les besoins de la population, et pas une idée qui germe dans la tête de quelqu'un, qui peut être très bonne par ailleurs, mais ne pas forcément répondre aux attentes et passer à côté de la richesse de ce qui constitue notre ville.
Alors, comme pour d'autres listes auxquelles nous avons posé les questions, il faudra se souvenir, là encore, de la place plus grande promise à la consultation des habitants si la liste Union pour le Mans arrive en tête lors des élections municipales. Mais on pointe déjà du doigt que être consulté, c'est pas décider. Non. Et pourtant, en démocratie, c'est la population qui a le pouvoir. Donc, c'est la population qui décide. Avoir le pouvoir, c'est pouvoir prendre des décisions. C'est pouvoir organiser les choses et non pas qu'on nous demande notre avis. On est encore un petit peu loin, peut-être, parce que nous ne nous occupons pas assez de nos affaires communes, c'est le cas de le dire. Alors, la loi nous amène à citer les autres candidats. Alors, dans l'ordre du tirage au sort pour les panneaux, on a la liste Le Mans Ville Humaine, soutenue par la France Insoumise, la liste Le Mans nous rassemble avec le PS, le PRG et Place Publique. La liste L'Union pour Le Mans avec donc CES, les écologistes, le PCF et le collectif Fraternellement. La liste Le Camp des Travailleurs soutenue par Lutte Ouvrière. La liste Reprendre Le Mans aux politiciens professionnels soutenue par le Parti Révolution Permanente. La liste Le Mans Nouveau Cap soutenue par Les Républicains, l'UDI et Horizon. Et la liste Rassemblement pour Le Mans soutenu par le Rassemblement National. Puisque nous parlons depuis plusieurs mois maintenant de listes participatives et citoyennes, nous sommes allés voir à quoi peut ressembler une commune en transition. Alors on n'y est pas allé véritablement, on a pris notre téléphone. Et nous voilà donc à Ungersheim avec Jean-Claude Mensch, maire depuis une éternité qui se présente lui-même.
Je m'appelle Jean-Claude Mensch. Maire de la commune d'Ungersheim depuis 1989, ça fait la 37e année, 6 mandats. Et puis, bon, nous avons développé ces 3 derniers mandats une démarche de transition écologique, enfin un programme qu'on appelle 21 actions pour le 21e siècle, qui s'appuie sur 3 grands thèmes qui sont la démocratie participative, ou alors ce qu'on appelle aussi autrement l'autonomie intellectuelle, la souveraineté alimentaire et puis l'indépendance énergétique. Voilà, bon, on développe toute une série d'actions communales qui devraient permettre de couvrir les besoins tant en énergie qu'en nourriture de la population.
Eh ben, beau projet. Alors, on entend Ungersheim, mais ça s'écrit Ungersheim, U-N-G-E-R. S-H-E-I-M, je vais aller jusqu'au bout. C'est une commune de 2500 habitants située dans le Haut-Rhin, dans l'aire d'attractivité de Mulhouse, comme on dit chez les géographes. La ville a été l'objet d'un documentaire réalisé par Marie-Monique Robin, je vais y arriver, en 2016. Un documentaire intitulé « Qu'est-ce qu'on attend ?» que nous vous recommandons. 2 listes sont présentes au suffrage municipal lors des élections de 2026. Ungersheim, Ensemble pour Ungersheim, Votre Voix pour Agir, Notre Transparence pour Réussir, une autre liste à Ungersheim. Bon, alors, maintenant que ça c'est fait, Jean-Claude Mensch a déroulé le sommaire de l'entretien. On va surtout parler d'autonomie, cette capacité à faire les choses soi-même. Une autonomie qui n'est pas l'autarcie. L'idée n'est pas de ne plus avoir de relations avec le reste du monde, mais plutôt de mettre en œuvre l'après-pétrole, puisque Ungersheim est en transition. Une transition dont nous parle un Jean-Claude Mensch un petit peu enroué.
Est-ce qu'on peut revenir à l'idée de transition? Est-ce que vous faites partie du mouvement des villages et villes en transition?
Bah, écoutez, oui, mais bon, il me semble qu'il est très peu actif. Hein.
Ce mouvement, oui.
On a créé ce programme en 2011 suite à des contacts et des prises de connaissance avec Rob Hopkins, qui a écrit le fameux manuel de transition. Il est venu à Ungersheim, on l'a rencontré à plusieurs reprises. Il va revenir là au mois de mai cette année. Ça permettra de faire un bilan sur un peu plus de 10 années de fonctionnement en la matière par rapport à la transition. C'est le début de la prise de conscience par des années 2004-2005. En 2006, je proposais à l'agglomération mulhousienne dont nous faisons partie un plan climat, effectivement sensibilisé par le film de Al Gore, à l'époque, Une vérité qui dérange, qui nous interpellait sur ces questions du réchauffement climatique. Nous étions sans doute une des premières, voire la première agglomération en France à être dotée d'un plan climat volontaire. Aujourd'hui, ils sont obligatoires pour toutes les intercommunalités. Et c'est donc à partir de cette prise de conscience, alors que nous avions déjà réalisé un certain nombre d'équipements en énergie renouvelable à partir des années 2000, qui ont abouti aussi à la prise de connaissance des manuels de Rob Hopkins et de la création de ce programme. Voilà un petit peu l'historique, la chronologie des opérations et de notre engagement.
Alors, à propos des villes en transition, il existe un site en espagnol, en catalan, en anglais, qui reste en fait la référence de ces réseaux des villes en transition, qui s'appelle fearlesscities.com. Fearlesscities.com. À propos de Rob Hopkins, pas Bob, hein, non, Rob. Rob Hopkins, on vous conseille de lire son manuel de transition publié la première fois en 2010 en français et réédité et amendé depuis. Un vrai manuel avec des fiches-outils pour se mettre au travail, que ce soit individuellement ou surtout collectivement. Et pas seulement pour la permaculture, mais surtout pour reprendre le pouvoir aux politiciens professionnels. Si ce sujet vous intéresse, il convient de vous rapprocher, par exemple localement, de l'association Pontlieu en transition. On a pu entendre que la prise de conscience date d'une vingtaine d'années, et ensuite il a fallu emmener la population pour mettre en œuvre ce programme 21 actions pour le 21e siècle. Alors, quelles actions? Eh bien, nous verrons ça la prochaine fois.
Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là.
Que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
Il me reste à vous dire qu'il se passe plein de choses que vous pouvez retrouver sur sarthe.demosphère.net où vous apprendrez par exemple que le mardi 3 mars, il y a l'assemblée du collectif Sortir Nucléaire 72 à Le Mans, que ça se passe à la maison des syndicats à partir de 17h. Oui, parce que le nucléaire, c'est peut-être pas la meilleure solution. On vous apprendrait également que le samedi 28 février à 14h, il y a la manifestation contre les actions, les activités israéliennes dans le Moyen-Orient. Là, ils participent carrément avec Trump à des bombardements de l'Iran. Ouais, ça ne s'arrange pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, par exemple, à 17h, samedi 28 février, et tous les 28 du reste de la saison, au cinéma Le Colisée, rue du Port, vous pourrez avoir un film et un intervenant sur des histoires de santé, sur les impacts sanitaires des polluants chimiques, notamment, organisé par Santé Environnementale Mancel, SEM, une journée avec un film et un intervenant. Et pour le samedi 28 février à 17h, vous pourrez voir le film Goliath au Colisée avec comme intervenant, je vais retrouver Hélène Grosbois, conférencière engagée sur l'environnement, la santé et la biodiversité. C'est à 17h au Colisée. Voilà, tout ça, vous pourrez le retrouver sur sarthe.demosphère.net. N'hésitez pas à aller voir sur larnapé.info pour en savoir aussi un peu plus sur l'actualité militante du moment. Et puis, si vous croisez des fachos, n'hésitez pas à garder la tête haute et puis répondez. Répondez quoi? Répondez. C'est-à-dire que ça dépend après comment on vous parle. Allez, au revoir.